Partie 1. La vie. Chapitre 1. De nos jours.
Annoncez-moi une bonne nouvelle, docteur. L'horloge indiquait à peine 8 heures. Franck Charcot était le premier patient de la matinée. Le docteur Remblay ferma la porte derrière lui et invita le commissaire à s'asseoir. Le cabinet de consultation était propre, fonctionnel, anonyme. Je crains malheureusement que nous n'ayons aucune évolution. Avez-vous bien suivi le traitement que je vous ai prescrit le mois dernier ? Charcot se massa les tempes. La journée commençait très mal. Mes poubelles sont pleines à craquer d'ampoules vides et de boîtes de médicaments. J'ai fait des prises de sang qui n'ont rien donné et qui ont valu à mon pauvre infirmier de se faire agresser par un junkie qui lui a vidé les poches pas loin de chez moi. 3 points de suture pour gagner une misère. Devant l'absence de réaction du médecin, Franck Charcot poursuivit. J'ai aussi appliqué vos conseils à la lettre, même ces histoires de rapports programmés. Et vous me demandez si j'ai bien suivi le traitement ? Remblay éventa des feuilles devant lui. Il prit le temps de répondre. Il avait l'habitude de recevoir des hommes et des femmes déstabilisés, de tous âges. C'est votre 3e spermogramme. Il confirme la sténospermie grave. En l'état actuel des choses, la faible mobilité de vos spermatozoïdes ne vous permet pas d'avoir d'enfant. Mais rien n'est perdu, nous allons y arriver. Quand ? Et comment ? Vous avez déjà procréé par le passé. L'analyse de votre sang, les divers examens que vous avez subis ne montrent ni infection, ni dilatation des veines testiculaires, ni anomalie immunitaire. Vous avez 50 ans, mais d'un point de vue reproductif, vous restez dans la force de l'âge. Les traitements n'ont pas d'influence sur vous. Je n'ai constaté aucune raison physiologique au fait que vos spermatozoïdes soient paresseux. Il faut peut-être envisager la voie psychologique. Sur sa chaise, Charcot était extrêmement tendu. Ce fichu mot, psychologie, revenait à la charge, lui collait à la peau, même quand il s'agissait d'analyser une tribu de fainéants incapables de grimper un col. Le médecin continua. Le stress, la surcharge de travail, des coups durs successifs ou de mauvaises nuits à répétition agissent sur les hormones et l'équilibre de l'organisme. Plus d'un cas d'infertilité passagère sur 5 est dû à un blocage psychologique. Vous ne pouvez imaginer le nombre de couples qui, juste après avoir subi une fécondation in vitro ou fait une demande d'adoption, réussissent tout à coup à procréer. Le spécialiste incitait Charcot à parler, mais autant s'adresser à un mur. Il parcourut la paperasse et balaya la physionomie de son patient. Notamment les cheveux en pétard couleur poivre et sel, les mains épaisses posées sur les genoux, le costume cravate bleu sombre de belle coupe qui tombait parfaitement sur sa silhouette robuste. Je suppose que vous avez traversé des périodes difficiles depuis la naissance de votre premier enfant. C'était il y a 8 ans, je crois. Le téléphone portable du commissaire Franck Charcot se mit à vibrer au fond de sa poche. Il n'y toucha pas et se leva, exaspéré. Écoutez, docteur, ça fait 3 fois que je m'enferme dans vos cabines à 8 heures du matin pour me masturber devant des photos de magazines porno, et 3 autres fois pour venir récupérer des résultats plutôt catastrophiques. C'est difficile pour moi d'en parler avec vous. Les psys, je connais, croyez-moi. Le temps presse, vous comprenez ? Ma compagne a 38 ans et je suis plus tout jeune. On veut un enfant le plus vite possible. Ça tourne à l'obsession. Et sans FIV. J'aimerais vous reparler de la fécondation in vitro plus en détail, justement. Le procédé fonctionne très bien et... Non, désolé. Ni mon ami ni moi n'emploierons cette méthode. Pour la raison, disons que c'est personnel. Il me faut une autre solution, là, maintenant. Dites-moi qu'elle existe, docteur. Le médecin se leva à son tour, hochant légèrement la tête comme s'il comprenait. Charcot remarqua son alliance en argent. Cet homme devait avoir une 30aine d'années, une belle femme, probablement des enfants. Un dessin au feutre caché dans un coin appuyait cette supposition. Il n'y avait aucune photo des mômes sur le bureau. Certains couples à problème en venant à détester la progéniture des autres. Dans 10 jours, c'est Noël. Lâchez du lest, partez loin de Paris, de votre travail et reposez-vous. Et soyez également patient. Plus vous serez pressé, moins vous aurez de chances d'aboutir. Il faut chasser de votre esprit cette fixation d'avoir un enfant. Ce sont les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Charcot aurait aimé lui dire que cette obsession ne venait pas de lui, mais il se garda bien d'en révéler davantage sur sa vie privée. Un type avec son passé avait de quoi mettre en alerte tous les psychiatres de la planète. Ils se serrèrent la main. À l'accueil, le flic régla le montant de la consultation en liquide. La secrétaire réclama sa carte de sécurité sociale et de nouveau, il prétexta l'avoir oubliée. De ce fait, elle lui établit une fiche à renvoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il déchira et jeta à la poubelle une fois dehors, face au laboratoire d'analyse médicale, comme toujours. Il s'engouffra dans les rues du 16e arrondissement. L'air était froid et humide, le ciel chargé d'une limaille grise. Il allait neiger. Une écharpe autour du cou, le commissaire de police était inquiet. Cela faisait 8 mois qu'ils essayaient d'avoir un enfant avec Lucie. Même si sa partenaire ne disait rien et encaissait les échecs, Charcot sentait que leur couple battait de l'aile et que la situation finirait par dégénérer tôt ou tard. Et pour l'instant, il ne voyait aucune solution. Il ne se sentait pas le courage de lui avouer sa stérilité, passagère, espérait-il. Mais d'un autre côté, il avait de plus en plus de mal à laisser planer l'espoir d'un futur bébé. Le docteur avait peut-être raison. Prendre le large quelques semaines pour remotiver ses spermatozoïdes. Dans un soupir, il consulta les 2 messages laissés sur son téléphone. Le premier était de Bélanger, son chef de groupe. Il fallait se rendre sur les lieux d'un crime à Trappes, à 30 kilomètres de Paris. Charcot sentait le mauvais coup. Pour que la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres s'empare d'un dossier qui aurait dû tomber dans les bureaux d'une antenne locale, il fallait quelque chose de costaud ou de très mystérieux, voire les deux. Le second appel venait de Lucie. Bélanger l'avait contactée elle aussi pour la même raison. Celle qui partageait sa vie et son équipe depuis 1 an et demi fonçait déjà en direction du sud de la capitale. Superbe cadeau de Noël en perspective, cette nouvelle affaire. Et l'autre truffe qui parlait de vacances.